Allô François ?
Allô ? C'est qui ?
Salut, c'est Guillaume. Avec Cara, on vit au Canada, à Montréal. Tu sais, cette ville qui est pas la capitale d'une province, qui est pas un pays. On vient faire un documentaire radio sur le retour de la nature en ville, parce qu'on fait déjà ça à Bruxelles. Tu sais, cette ville qui est la capitale d'États qui ne sont pas unis.
Quoi ? Attends Guillaume, je comprends rien là. Il est 3h du mat, tu m'appelles pour le retour de Cassé ?
La nature.
Elle était partie ?
En ville.
La nature est partie en ville.
Non, non, le retour de la nature en ville, François.
Pourquoi tu m'appelles ?
Bah, pour que tu m'aides, mon vieux.
Ok, ben, écoute, côté nature, je suis pas mal balèze parce que j'habite au Yukon.
Au Yukon ?
Au Yukon.
Ah ?
C'est à l'est de l'Alaska.
Comme le reste du monde ?
Ouais, ouais, mais côté ville, bon, il y a Whitehorse, tu sais, il y a plus d'ours que d'habitants, so c'est pas si fort que ça, quoi.
Écoute, François, j'ai besoin d'un coup de main, d'un intermédiaire, d'un homme qui a la main verte.
Ah, ici, c'est le pouce vert.
Tu vois que j'ai besoin de toi. Je dois enregistrer un tas de gens qui font des jardins.
Communautaires ?
Qui ont des potagers.
Sur des toits ?
Qui défoncent du béton pour mettre des plantes, c'est incroyable.
Comestible ?
C'est tout un nouveau champ.
Des possibles ? Ça, je crois que je peux t'aider.
Et après, faut que je fasse un documentaire radio.
Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est comme un documentaire, mais sans les images.
Mais c'est débile, pourquoi y a pas d'images ?
Bah, pour que les gens imaginent.
Ok, ok. Attends, je vais essayer. Ferme tes yeux.
Hein ?
Ferme tes yeux.
Et pourquoi ?
Allez, ferme tes yeux, bordel !
Ok.
Ça y est ?
Ouais.
T'entends la voix, hein ?
Ouais.
Eh ben, imagine que je suis là.
Bonjour.
Montréal, la nature se réveille.
On fait de la radio, on essaye d'enregistrer des gens qui jardinent.
Vous faites de la radio ?
Ouais.
À quel point ça ?
Ah, nous, on est belges.
Ah, ok.
Réalisé par Guillaume et Kera, Abgral Todaro.
Mais est-ce qu'on peut rentrer dans le jardin ?
Ben, moi, je m'en vais. Hein ?
Direction, les champs des possibles.
La nature est en ville, et la ville est en nature. Pour moi, c'est un continuum. Il n'y a jamais un zéro nature, tout à fait. On regarde rapidement, puis on dit c'est zéro nature, mais c'est jamais tout à fait zéro nature. La nature en ville est toujours là, c'est toujours un potentiel. Il s'agit de lui laisser le temps de se développer un petit peu, de lui donner l'occasion de s'exprimer un petit peu. Où vous voyez rien, il y a toujours quelque chose, donc ça peut être une graine, spore ou une partie souterraine d'une plante. Les oiseaux ensuite vont nous amener des graines à leur tour. Donc le processus est constant. Il s'agit qu'il y ait une source de semences pas trop loin, à même d'être portée soit par le vent ou soit par les oiseaux. Donc en fait, la nature n'est pas là, c'est une illusion. Elle est constamment là. Il y a des plantes qui ont cette faculté extraordinaire d'avoir des graines qui sont capables d'attendre 100 ans, 125 ans, 150 ans. Donc il s'agit qu'on regarde un instant d'un côté, et puis la nature se met à coloniser l'espace. En fait, la nature, on est toujours au beau milieu de la nature. Je suis Roger Latour, je suis artiste visuel, photographe et auteur. Donc on est presque au centre-ville, sur le plateau Mont-Royal, à Montréal. On est contre la voie ferrée. Donc c'était ici autrefois c'est une friche industrielle, c'était autrefois une gare de triage ferroviaire. Les activités ont cessé dans les années 70. Et puis, donc, vers 1975, donc c'est comme le degré zéro, ou le jour zéro, où il n'y avait plus d'activité industrielle. L'endroit était minéralisé à 100%, donc c'est couvert de ballast et de gravier partout. Il n'y avait pas un seul brin de verdure. Et puis, donc, depuis le milieu des années 70, si vous laissez aller les choses, la nature prend vite sa place. Donc ce que vous voyez ici essentiellement, c'est des petits éléments paysagers qui se sont installés tout seuls. Donc on a toute la cohorte des arbres colonisateurs habituels pour la région de Montréal. Donc on a les peupliers surtout. Les plus grands ont environ l'âge de la cessation des activités, donc 40 ans à peu près.
Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'un endroit où il n'y a pas du tout d'humain pour que la nature puisse se déployer complètement?
En ville?
Oui.
On aimerait bien ça. Mais on est beaucoup à vouloir ça, mais ça se traduit aussi par on est beaucoup à vouloir faire l'expérience de la nature un peu. Moi, quand je viens ici, je suis rarement dérangé par le... Je suis jamais dérangé par la présence des gens. J'aime bien rencontrer les gens, d'une part. D'autre part, je suis en général absorbé à documenter la vie ici. Et je pourrais pas, certainement pas faire ça dans un autre parc. Et puis, le coup, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre à côté ou pas loin. Mais pour moi, c'est pas, je le remarque pas vraiment. Il y a assez d'endroits pour s'isoler ici. C'est juste assez grand. Il y a assez d'écrans de verdure. Selon l'heure de la journée, on peut avoir l'impression d'être seul. Tout jeune, enfant, j'étais déjà dans les champs et j'étais déjà curieux du monde végétal. J'étais curieux des oiseaux, j'étais curieux des insectes. Je me souviens très bien la première fois que j'ai pris une chenille de monarque, que je l'ai amenée à la maison dans un pot de verre et puis que le monarque est né chez moi dans la cuisine. Donc depuis toujours, je m'intéresse à la nature. Et puis en ville, ben, j'ai connu le champ des possibles, donc ça s'appelait pas le champ des possibles. Je venais ici parce que je documentais la flore des terrains vagues, la flore urbaine. Donc c'était le terrain vague, la friche la plus près de chez moi. Mais tous les arbres que nous avons ici, la première fois que je suis venu, il n'y en avait aucun. Donc de témoigner de ce dynamisme de la nature, c'est un plaisir. C'est pas tellement une question de rêver à avoir un peu plus d'ombre, de fraîcheur et de verdure. Ça devient véritablement une question de nécessité. Il faut y aller. Il faut prendre ces espaces. Il faut s'organiser. Il faut une volonté, il faut du temps, il faut de la patience. Et on peut gagner comme ça des morceaux de verdure ou de nature un peu partout en ville. La nécessité de verdir le milieu urbain fait pas beaucoup de doutes.
Salut Alex, on a des invités avec nous.
Bonjour.
Salut.
Salut.
Donc il y a de la place derrière, ça va être un peu pris, mais ça devrait être correct.
Je m'appelle Sébastien Martinez. Je travaille pour l'organisme Les Pousses Urbaines. J'ai beaucoup d'intérêt dans le milieu de l'environnement, des arts, de la musique, bref. Et c'est ça, je travaille depuis presque 3-4 ans dans le milieu du communautaire, du verdissement, de la pédagogie environnementale. De la création et la charge de projet de verdissement à Montréal.
Trois entrées pour... là, on est au Boisé des Pères, dans l'est de Rosemont, donc dans l'est de Montréal. C'est un boisé centenaire qui n'a jamais été touché, bref, qui n'y a pas eu de coupe, qui n'y a pas eu d'altération humaine à ce boisé-là. Donc, c'est un boisé indigène, du temps des Mohawks, des Iroquois ici. Mais par contre, c'est entouré complètement de pleines maisons et de parcs et de un secteur commercial et résidentiel. Donc là, les végétaux que vous voyez ici, des chèvrefeuilles, j'ai oublié les autres espèces, je pense qu'il y a des clématites, des espèces indigènes, On les a plantés la semaine passée, donc c'est pour ça qu'ils sont tout petits. Ils mesurent moins qu'un mètre. Donc on a verdi d'ici, je pense que le verdissement c'est pour environ sur une soixantaine, cinquantaine de mètres, là, à partir du bas jusqu'au haut.
Un coup de main à la nature.
Étant donné que c'est les Anglais qui dominaient l'économie et la culture du pays, là, du début du Canada, ben il y avait les manufactures et les industries étaient toujours dans l'Est, où il y avait les travailleurs qui étaient majoritairement francophones et irlandais. Et bref, donc ça fait que l'Est de Montréal a été beaucoup plus industrialisé et bétonné et moins verdi que l'Ouest. Et là, on le voit encore de nos jours, comme dans l'Ouest, l'Ouest de Montréal, il y a un arboretum, il y a plusieurs parcs, il y a moins d'industrie lourde qui s'est faite dans le temps-là. Donc, vous trouvez quelque chose ici comme bois d'épargne dans l'Est de Montréal, c'est quand même assez rare.
Montréal, c'est particulier parce que c'est à la fois une ville cosmopolite, internationale. On est près de 2 millions à vivre à Montréal. Mais aussi qu'il y a un passé très récent, il y a 300-400 ans, qui était tout à fait naturel. Donc, c'est-à-dire que les boisés et puis les prés dominaient le territoire de Montréal avant la colonisation. Et puis, ça fait qu'il y a quand même quelques secteurs de Montréal qui n'ont pas encore été très touchés par, pas seulement la colonisation, mais l'urbanisation puis l'étalement urbain. Et puis, donc Montréal a comme un grand potentiel de garder ces endroits-là et les revigorer, de les rendre plus forts, et même de revenir un peu sur ses pas de bétonisation, de tout bétonner, de tout mettre des autoroutes et des centres commerciaux partout, et rendre en fait l'espace disponible pour la nature, parce que il y a beaucoup de bonnes conditions climatiques pour le fait que la verdure et puis autant les arbres que les herbacées et tout puissent prendre dessus.
Donc ça c'est la ruelle verte. Elle va éventuellement continuer ici, mais étant donné qu'ils n'ont pas tout à fait fini les condos, la moitié de la ruelle verte ne sera pas encore plantée cette année, mais cette année il va y avoir le tronçon de, je vous dirais, c'est quoi, une soixantaine de mètres qui va être verdi de part et d'autre de la ruelle, avec, il va y avoir des arbres, des vivaces, des plantes nectarifères, mellifères, indigènes.
Et vous enlevez le béton là ou vous laissez pousser juste sur les côtés de la route?
Non, donc ça, la semaine passée, pas plus tard que mardi passé, c'était tout du béton. Et donc nous, on est venu faire l'excavation complète sur environ... Lorsqu'il y a des arbres, on va venir chercher jusqu'à 1 mètre de profondeur, ce qui est quand même beaucoup pour l'excavation. Et pour les autres parties plus latérales, près du condo et près des autres résidences en face des condos, on va enlever du 60-70 cm. D'excavation pour venir mettre de la terre de jardin. Donc on s'occupe d'excavation, également du choix de plantes, de l'aménagement paysager, voir discuter avec le client qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut pas, proposer des nouvelles espèces selon ce que nous on pense qui est bien pour ce coin-ci. Et parce qu'il faut tenir en compte la végétation qui est déjà présente, et après ça, mais verdir en soi.
Est-ce que ce genre de démarche est à la mode ici à Montréal en ce moment?
Oui, je ne parlais pas pour tout Montréal, mais pour l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, c'est pas que c'est à la mode, mais c'est un peu à la mode pour les citoyens de s'attendre à avoir des ruelles vertes. Mais l'arrondissement aussi, une politique de verdissement où il y a un budget annuel pour la création de ruelles vertes. Donc voilà que les citoyens de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, un des arrondissements de la ville de Montréal, s'attendent à ce qu'il y ait en moyenne 12 à 15 ruelles vertes construites par année, par saison. Et le but de l'arrondissement, c'est multiple, c'est la sécurité urbaine, verdir, diminuer les effets de chaleur, les îlots de chaleur et tout ça. On y va? Vous voulez rester un peu?
Alors c'est parti, attention. Alors là, c'est la séquence numéro 2, ça va être génial. Ah tiens, François, t'es finalement là? Ça fait 5 jours que je t'attends.
Ouais, je me suis dit que tu comprendrais pas tout.
Justement, mon vieux, je comprends pas ici. Vous êtes des sauvages ou quoi? Vous cassez vos rues, vos trottoirs?
Non, Guillaume, ça, c'est des ruelles vertes.
C'est légal?
Des fois, c'est financé par les arrondissements.
Les arrondissements?
Bon, on part de loin, là.
Hein?
L'île de Montréal compte différentes municipalités. La plus grande, c'est la ville de Montréal.
Hein?
La ville de Montréal, c'est quand même grand, puis il y a plein de monde, alors elle est coupée en différents quartiers. Les quartiers, on les appelle des arrondissements.
Ah!
Ces arrondissements, ils ont chacun leur politique, et certains, comme celui du Plateau ou de Rosemont-Petite-Patrie, financent des ruelles vertes. Qu'est-ce que tu fais là?
Eh ben, moi aussi, je m'y mets. Je pète du béton, et comme ça, on va me filer du fric.
Bon, ça marche pas exactement comme ça. D'abord, tout le monde doit être d'accord dans la ruelle. On fait ça dans les espaces derrière les maisons. Faut négocier entre voisins si ça devient piéton ou pas. Faut qu'il y ait des responsables pour chaque petit bout de jardin. L'arrondissement, au mieux, va faire sauter l'asphalte et fournir de la terre, parfois des plantes. En tout cas, il faut prévenir l'éco-quartier ou l'administration pour qu'ils valident le choix des habitants. Et après, paf, c'est parti.
Ici, vous êtes à Alternative. À Alternative, on a un projet qui s'appelle Nourrir la citoyenneté. On est à Montréal, juste en face du parc du Mont-Royal. Moi, c'est Gaëlle Janvier. Nous, notre mandat, c'est d'encourager la participation citoyenne dans la création de nouveaux espaces verts, comestibles et collectifs. Le verdissement nécessite un peu moins d'attention, tandis qu'un potager tel qu'on le connaît nécessite une attention. On va avoir une ruelle verte, on va mettre... ça va être ponctuel, les gens doivent se regrouper. Ils doivent surtout s'entendre de mettre des bacs. Puis là, ça a l'air d'être bien compliqué, là. Mais une fois qu'ils s'entendent de mettre des bacs ou quelques petites choses dans la ruelle, ils l'installent, puis peut-être de temps en temps, ils viennent arroser si c'est nécessaire. Tandis que tout de suite, quand on fait un potager, bien, c'est plus engageant. Tu te dis, qu'est-ce qu'on plante? Qui va venir deux fois par semaine, comment, qui va récolter aussi, ça c'est toute une grosse question. Même des fois, il n'y a presque pas de récolte, puis on en parle des semaines et des semaines sur qui va récolter. Donc, il y a tout à coup, ça devient un projet collectif qui peut aussi être trouvé en verdissement, mais c'est un petit peu plus rare. Puis la satisfaction d'être capable de se nourrir un tout petit peu ou juste de voir d'où vient ce qui nous nourrit, c'est un des aspects, un des bienfaits, en fait, qui est fourni par l'agriculture urbaine. Le verdissement est aussi un des aspects qui est fourni par l'agriculture urbaine. T'es dans des espaces transformés, verts, vivants. Donc, c'est une chose. Mais en plus que ça soit verdi, en plus, on apprend toutes sortes de choses. On parle de ça. On parle de butinage d'abeilles, on parle de où vient notre nourriture, on parle de compagnies pharmaceutiques, on parle de provenance des aliments, on parle de République bananière ou Honduras, on parle de toutes sortes de choses, de chimie des sols. Tu sais, on peut aller extrêmement loin avec un petit jardin. T'sais.
Aux incroyables comestibles, ongles, castelnau, drôlet.
Fais-moi qu'on en parle.
Ouais. Alors, c'est quoi le principe? Il faut mettre des étiquettes ou pas sur les plantes?
Il faut en mettre.
Ouais?
Ouais, c'est sûr.
Avec ou sans recette?
Les gens savent pas les épinards sont où. Pas mal.
Et les gens, ils comprennent qu'ils peuvent prendre les choses
non,
à manger?
Plus ou moins.
Voilà, pas encore, ça, pas encore.
Et donc là, l'idée, c'est pas de la décoration. Hein. C'est à manger.
Tout se mange. Mais les deux. C'est beau, puis c'est bon.
Et c'est d'occuper le territoire, de se réapproprier l'espace public. C'est peut-être une des parties bien importantes.
Qu'est-ce que vous plantez?
De tout! Des fruits, des légumes, des plantes vivaces qui vont revenir d'année en année, des fleurs,
des champignons,
un maximum de biodiversité.
Les gens habitent juste là, ils sont en train de se préparer une petite salade ou quoi que ce soit, ils descendent se couper quelques brins d'herbe, fait que c'est vraiment les fines herbes qui sont revenues assurément, mais qu'est-ce que... Tout fonctionne, même les vieilles Italiennes qui habitent dans le coin, parce qu'il y a beaucoup, on était à côté du quartier italien et tout ça, fait qu'il y a plein de vieilles Italiennes qui, eux, le matin, trouvent leur compte à venir chercher les fleurs de courgettes, puis à... Donc, c'est vraiment... Et là, il y a des livres aussi, on a renchéri l'offre en ajoutant... on peut venir chercher la nourriture et des livres du même coup, donc se nourrir l'âme, c'est nourrir l'âme et l'esprit et le bedon. Hein? Rien de moins.
Il y a un restaurateur aussi.
Ah oui, oui. Juste ici. Ouais.
Ah oui?
Quand on cuisine, le chef, il manque de la roquette, ses frigos, il manque quelque chose, ben il sort dans le jardin pour venir chercher, pour le dépanner. Donc,
C'est génial parce que la réaction des commerçants est tout à fait géniale autour. On a un voisin qui nous a fait une sortie d'eau pour qu'on puisse arroser. On a le nettoyeur qui nous a permis de faire une sortie d'eau lui aussi. Et ça, c'est sans compter tous les petits avantages qu'on a. Parfois, une journée de travail, puis le Mia ici, le restaurant, sort avec un plateau de café ou le pain dans les voiles, la boulangerie en face qui nous amène des viennoiseries. On est gâtés par les commerçants. Pas mal. Moi, ce que je fais pour m'entourer de nature, je vivais à la campagne avant et aujourd'hui, je suis devenu citadin. Et tout en étant citadin, je me dis que c'est facile finalement de ramener un petit bout de nature. C'est facile de mettre un bac avec des plantes. C'est facile de jardiner dans des jardins communautaires, il y a tellement de façons de s'exprimer, en fait.
Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites alors pour vous entourer de nature?
Moi, je m'implique depuis 2 ans dans le mouvement des incroyables comestibles. L'espace ici qu'on a nommé le potager Mange-Trottoir, c'est un espace d'une cinquantaine de mètres carrés situé au coin d'une intersection achalandée. Et on était heureux que ça soit justement au coin d'une intersection achalandée parce qu'on voulait que ça soit en plein cœur d'un quartier. On voulait que ça soit un endroit où ce que les gens circulent beaucoup, où ce que les gens s'arrêteraient, prendraient connaissance du projet, où on pourrait les rejoindre, où on pourrait les solliciter pour aider, pour récolter, pour parler de tout et de rien aussi, pour parler des possibilités de s'approprier l'espace public, pour faire des projets qui sont vraiment citoyens. Souvent, les administrations publiques sont un petit peu loin des préoccupations du citoyen ordinaire, de monsieur et madame tout le monde, comment ils verraient leur ville. Oh, ma ville du futur, je la vois la plus autosuffisante possible. Je la vois avec des jardins, avec des serres sur les toits, avec des animaux de ferme, avec des poules, avec des lapins. Je la vois avec une espèce de retour de la campagne en ville.
Bernie, what's the menu? What's from lunch today? Does anyone know?
Salade niçoise.
Salade niçoise, merci. C'est une salade niçoise.
Carrot salad,
potato
salad.
Avec des à côté de salade de pommes de terre et de carottes. L'été, on essaie de faire deux fois par semaine, on fait des salades frais parce qu'il fait plus chaud, les clients, au lieu de cuisiner des choses super chaudes comme des bœufs bourguignons, on va faire des salades qui sont un peu plus frais et qui, genre, tout ce... Ça, c'est du mesclin qu'on a recueilli dans nos jardins à McGill la semaine passée. Donc, on essaie de mettre de plus en plus nos produits propres dans chaque repas. On va continuer.
À la base, le Centre pour Roulant est un organisme communautaire qui travaille en inclusion sociale et sécurité alimentaire.
La porte est ouverte, donc on peut passer direct au toit.
Et à ce but, on travaille dans toutes sortes de programmations, justement pour relier les gens qui sont isolés socialement avec la nourriture. Moi, c'est Carlo Primiani. Je suis le co-gérant d'agriculture urbaine au Centre pour Roulant à Montréal.
Voici notre terrasse. Ici, de ce qu'on voit, on a des tomates cerises, des céleri, des poivrons. Il y a du basilic, de la menthe, des haricots, des capucines. C'est tout pour l'instant. Puis on va monter, je vais vous montrer d'autres choses.
Donc là, on se trouve sur le toit du Centre Roulant. Et autour de, on est vraiment en plein milieu d'un petit jardin tout vert, abondant de tous les, toute la bonté du printemps au Québec.
Donc voici notre toit vert. Et là, il y a beaucoup plus de choses. On a des navets, du fenouil, des oignons, des pois, du kale, du bok choy, quoi d'autre? Des carottes, des betteraves, des abeilles, du thym, un peu d'origan, de marjolaine. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de trèfle.
Ma plante préférée. Je vois la ciboulette devant moi. Et c'est peut-être la ciboulette parce que ça sort tout début en printemps. C'est la première chose qu'on peut cueillir au Québec. Et c'est comme, on a toujours besoin de quelque chose de la famille d'oignons. Donc c'est super fun d'avoir la ciboulette qui pousse toute l'année, quasiment toute l'année. Et super facile, c'est comme, ça pousse comme une mauvaise herbe. C'est incroyable.
Vous avez déjà mangé les feuilles de moutarde? De moutarde?
Non.
C'est épicé.
Moi, c'est bon?
Ouais. C'est un peu intense, juste tout seul, mais c'est comme intéressant de...
Et ça va que ça goûte la moutarde.
Ouais. C'est pour ça. Et ça va être les graines de ce plant-ci qui vont faire de la moutarde.
Wow.
Je me sens super chanceux à chaque fois que je dois aller au jardin. C'est comme de voir ça comme une partie nécessaire de mon travail. Je suis hyper chanceux. Ça me reconnecte, ça ralentit un peu mon cerveau de travailler avec des êtres vivants, de prendre soin de quelque chose. Et aussi l'aspect créatif est super important, de voir que tu sèmes quelque chose un jour et puis une semaine plus tard, tu vois que ça germe et un mois plus tard, tu vois que ça donne des fruits. C'est incroyablement satisfaisant.
Comment on devient jardinier? Contre toute attente, le jardinier ne sort pas d'une graine, ni d'un bourgeon, ni d'un oignon, ni d'un bulbe, ni d'un provin. Il devient jardinier avec l'expérience, sous l'influence du voisinage et des conditions naturelles. Un beau jour, il vous arrive de planter vous-même, de votre propre main, une fleur. Au cours de l'opération, par quelques écorchures ou autrement, un peu de terre pénètre dans votre organisme et détermine une sorte d'inflammation ou d'intoxication. Bref, vous devenez un jardinier fanatique. Seule une griffe s'est engluée et c'est l'oiseau tout entier qui est pris.
En fait, je savais pas quoi penser. Au début, quand il y avait le petit potager en arrière, je trouvais ça le fun. Après, quand il a enlevé la pelouse et commencé à tout transformer, j'ai commencé à avoir un peu peur. Quand il a introduit les poules, j'avais vraiment peur. Et ensuite, ben, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis j'étais la première avec les enfants à aller chercher les œufs le matin. Puis maintenant, c'est vraiment incroyable. J'en suis super fière. Puis à chaque fois qu'on travaille dehors, il y a des gens qui passent, qui font toujours des commentaires. On a rencontré énormément de voisins comme ça. Puis, ouais, fait que je suis en fait maintenant très, très fière de lui.
Et depuis combien de temps, toi, c'est potager?
Ça fait environ 5-6 ans maintenant que j'ai commencé. J'ai commencé dans le fond de la cour avec un petit potager de 2 pieds par 4 pieds. Puis j'ai vite réalisé que j'aimais beaucoup ça puis que je voulais m'étendre davantage. Donc à chaque année, j'apportais un lit de culture supplémentaire. Puis ensuite, ayant utilisé l'espace du gazon, j'ai commencé aussi à utiliser l'espace sur l'asphalte. Parce que, bon, d'une part, on en a beaucoup. On en a gardé une partie pour que les enfants puissent jouer, puissent s'amuser, mais en même temps, c'est un petit peu le genre de matériaux qui contribuent aux îlots de chaleur dans la ville. Donc, nous, on a commencé à installer des lits cultures sur l'asphalte pour un petit peu amenuiser ce phénomène-là et pour verdir la cour davantage.
C'est une forme de méditation parce que c'est un petit peu routinier. C'est une satisfaction du travail qu'on a. Ouais, c'est beaucoup de calme. En fait, je ne l'ai pas du tout aidé au début. Je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment plate, jardiner. Puis, j'étais comme, ben, je vais juste aller acheter mes tomates au marché du coin. Mais de plus en plus, avant, c'est lui qui me demandait de l'aide, puis j'en fournissais. Et maintenant, cette année, je pense que c'est la première année où j'y vais travailler sans qu'on me le demande.
Alors ici, on se retrouve dans le quartier de Huntsic, dans l'arrondissement Huntsic-Cartierville à Montréal. Ici, c'est ma maison familiale. C'est mon grand-papa qui a fait construire la maison en 1952. Et je suis d'origine italienne, donc mon grand-père et mon père ont utilisé déjà la cour pour faire de grands potagers. Donc je continue un petit peu dans cette tradition. Et seulement, j'ai un peu innové dans les dernières années en étendant ce potager en devanture de maison.
Il y en a une rouge, hein? Elle est comme une fraise, ouais. Mais je pense qu'elle n'est pas, pas très mûre encore.
Non. Il va falloir attendre. Donc, mon nom est Patrick de Bortoli. J'ai 39 ans. Je suis père de famille. Je suis thérapeute conjugal et familial de formation et nouvellement horticulteur. Ce n'est que récemment, après avoir commencé mon potager à la maison, que j'ai vraiment pris goût. Et je me suis dit l'année dernière que j'allais prendre une année sabbatique pour me lancer en études pour apprendre davantage sur l'horticulture. Et ce que j'ai fait, j'ai suivi une formation d'un an et demi. Et maintenant, je pratique l'horticulture tant à la maison que professionnellement. Il y a quelque chose d'extrêmement thérapeutique pour moi de mettre les mains dans la terre et de travailler avec des plantes. Disons que leurs problèmes sont moins compliqués que celles des êtres humains.
Ici,
j'ai de l'échinacée, j'ai du thym. Puis ça, j'ai essayé cette année, c'est la première fois que j'essaie, c'est du cardon. Apparemment, c'est un très, très vieux légume. On m'a recommandé d'essayer. Ça a une forme aussi assez particulière avec des feuilles bien découpées et ça vient assez gros. Puis je crois qu'on peut le consommer en soupe ou en potager. Donc je vais essayer ça cette année. La même façon que j'étais attiré vers la sociologie et la psychologie, c'est que j'avais un intérêt pour l'être humain, une grande curiosité pour l'être humain. Et c'est la même chose avec l'horticulture parce que je crois que l'être humain, naturellement, fait partie de la nature. Et cette proximité avec la nature, je crois qu'elle s'amenuise de plus en plus avec le temps. Et pour moi, c'était quelque chose qui me manquait. Ici, en devanture de maison, donc j'ai commencé ici, ça fait à peu près 5 ans que j'ai fait ça. 3-4 ans, pardon. 3-4 ans que j'ai fait ça. J'avais fait de la pelouse tout le long ici. Et puisque je commençais à manquer d'espace en arrière où il y avait du soleil, je me suis dit, hey, en avant, c'est une exposition sud-ouest. C'est idéal pour un potager. Donc, j'ai commencé à couvrir ma pelouse de boîtes de carton défaites et du papier journal. Donc, quand j'ai commencé, je me faisais regarder un petit peu de travers par les voisins. Mais avec le temps, j'ai fait venir de la terre, de la bonne terre, du compost, et j'ai commencé à planter. Et en peu de temps, j'ai commencé à avoir des commentaires positifs du voisinage. Puis, c'est une des raisons également pour lesquelles j'ai décidé de faire un jardin, un potager en devanture de maison. Il y avait une raison sociale. C'est que je voulais commencer à trouver une façon d'apprendre à connaître mes voisins davantage, mon voisinage, mon environnement, mon quartier. Puis je me suis dit, quelle meilleure façon que de commencer à cultiver en avant, parce que les gens s'arrêtent et viennent, posent des questions et ils sont curieux. Et moi, ça me fait plaisir de leur répondre. Et de cette façon-là, j'ai appris à connaître beaucoup de gens sur ma rue et davantage. Et je pense que ça a servi son rôle. Et je pense que l'agriculture urbaine peut jouer ce rôle-là parce que je pense que pour moi, du moins, jardiner, c'est un acte politique. Et c'est une façon de créer du lien social dans ma communauté. Et je pense que de ce côté-là aussi, c'est assez réussi.
Salut. Comment tu t'appelles?
Nigouyaï.
Et ça te plaît d'avoir un jardin?
Oui.
Et qu'est-ce que tu fais, toi, dans les jardins?
Qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Est-ce que tu aides papa à planter?
Oui.
Oui. Est-ce que tu aimes manger aussi des fleurs?
Oui!
Oui?
c'est quoi ton fruit préféré?
Pomme.
Pomme.
On n'en a pas de pommes. On a des poires, on a des prunes, on a des cerises, mais on n'a pas de pommes.
Mais c'est des cerises.
Toi, c'est des cerises?
C'est quoi ta plante ou ta fleur préférée?
Ça, c'est difficile à répondre. Je pense que ma plante préférée, ce serait l'olivier de Bohème. J'en ai un dans ma cour. Dans les meilleures conditions, il nous procurerait des fruits, mais ici au Québec, ça n'arrive pas jusque-là. Mais il est aussi très joli. Il est d'un vert argenté. Il représente aussi un petit peu la paix. Une valeur qui est importante pour moi. Il nous procure du répit du soleil dans les grandes chaleurs d'été. Je pense que la nature en ville a toujours été. Ce qu'on connaît maintenant, ou ce qu'on a connu dans les 50-60 dernières années, c'est une exception à la règle. On a tenté de faire sortir la nature de la ville et en détachant le citoyen de la nature et de la production alimentaire, mais ça l'a toujours fait partie de la vie en ville. De plus en plus, on sent le besoin d'avoir ce lien-là avec la nature à proximité. Et je crois qu'elle a définitivement sa place et qu'elle va la reprendre. Si on passait en avion par-dessus la ville, on ne verrait que du vert. Ça serait à quoi ça ressemblerait la ville du futur.
Salut, je cherche Patrice. Voilà.
Ouais, mais rentrez par
là-bas. OK, je crois que c'est...
La porte dorée, là, ici, vitrée, là.
Ouais, je crois qu'elle était fermée, non?
Ah non, elle est fermée.
OK.
Puis, bon,
parfait.
Bonjour. Salut.
Guillaume, c'est ça?
Ouais.
Patrice.
Enchanté. Et Chiara.
Bonjour, Chiara.
Enchanté.
Patrice, enchanté.
Rentrez. On va aller en arrière.
D'accord.
Profiter de l'extérieur. Donc, il fait beau, il ne pleut pas.
Bonjour.
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 Allô. Ouais, alors. Ben oui, ils sont fraîchement arrivés. C'est. On les a installés. C'est un projet conjoint, en fait, qu'on a fait avec l'église à côté. Puis on les a installés vendredi dernier. Fait que l'église se chargeait de payer l'infrastructure. Puis nous, en contrepartie, mais on allait faire la tournée, chercher le poulailler qu'on a fait construire à l'extérieur de la ville. J'étais allé chercher les poules chez un fermier aussi à l'extérieur de la ville. Ça fait qu'on est tout équipé là, pour les garder tout l'été.
Et combien de poules vous avez?
Officiellement 5, officieusement 6.
Et je m'explique.
Non, parce que on était supposé avoir 3-4 poules, puis la réglementation municipale dit 5 et moins. Puis à la dernière seconde, on s'est dit, ah, le poulailler est capable d'en prendre 6-7. Fait qu'on dit, ah, on va en prendre 6. Mais en totalement oubliant que la réglementation municipale permettait 5 et moins. Mais je suis pas mal certain que le maire ne débarquera pas en disant débarrassez-vous-en. Là. Mais on est, c'est quand même là, c'est quand même un environnement privilégié là, pour les avoir. Ils ont quand même un super grand enclos qu'on peut les laisser en liberté. Puis le soir, ben, on les rentre dans leur poulailler. Fait que c'est tout nouveau, tout beau. Puis vous êtes arrivé juste au bon moment parce que aujourd'hui, il y a eu la ponte d'un premier œuf. Premier œuf de pondu. Non, je l'ai laissé dans le poulailler aussi, qu'on allait voir tantôt, mais c'est ça. Puis ça faisait partie d'un projet d'agriculture urbaine aussi. De l'autre côté, ils ont installé 3 grands bacs de plantation pour aussi avoir les enfants des deux communautés qui partagent l'église à côté à s'intéresser à l'agriculture urbaine, tout simplement. Fait que, donc c'est ça, mon associé, Antoine.
Bonjour, Cara.
Salut.
Guillaume.
Enchanté.
Donc voilà, on investigue là sur la nature en ville, le retour de la nature en ville et les initiatives qui se font. Ouais. Il y a beaucoup de gens comme ça qui mettent des poulaillers ou comment ça se passe?
Dans l'arrondissement ici, il y en a, c'est le deuxième. Et l'autre, c'est une autre organisation qui a un poulailler aussi parce que, en fait, dans l'arrondissement, la réglementation ne permet pas aux particuliers d'avoir des poules à la maison. Permet seulement aux organisations non lucratives à vocation éducative d'avoir des poules. C'est le cas dans l'arrondissement. Mais j'ai entendu dernièrement que dans, il me semble, c'est Hochelaga, ils venaient de légaliser les poules. Je sais pas c'est quoi la quantité. Je sais pas c'est quoi la quantité qu'on peut avoir. Mais tu sais, c'est drôle parce que là, une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, Montréal était quand même encore. Il y avait encore beaucoup de parcelles où on pratiquait l'agriculture. C'est un terreau fertile, là, la grande région de Montréal. Mais ça s'est densifié, beaucoup de construction. Puis avec l'arrivée de l'Expo universelle en 67, des Jeux olympiques, le maire de l'époque a décrété qu'il fallait sortir les animaux de la ferme, de la ville, parce qu'on voulait devenir une métropole internationale. Puis ça voulait dire on sort la ferme de la ville. Non, faut passer au 20e siècle.
Les actualités radiodiffusées présentent le journal parlé du 15 juillet 1966. Jean Drapeau, étendard moderniste de nos vies citadines, mène la transformation nécessaire de l'île de Montréal pour la rendre digne de l'exposition universelle de l'année prochaine en 67. Nous avons percé de part en part Montréal pour y dessiner des galeries où les hommes et les femmes modernes circulent comme des globules alimentant la ville en souffle et énergie. Le métro perce la terre et de cette terre de nouvelles îles émergeront. Mais la puissance de l'homme n'a pas de confins. Montréal doit cesser d'être cette ferme, cet havre pour les poules, cette ville rurale. Place à l'asphalte, à la modernité, la propreté, c'est le béton. Bye bye les poules. Les seuls nids de poules que nous tolérons à partir d'aujourd'hui, c'est ceux qui parsemeront nos routes. Que tout le reste soit banni, mauvaise herbe et basse-cour. Vive Montréal, vive l'urbanisme, vive l'asphalte, vive Jean Drapeau.
Sinon, pourquoi ça marche, les projets d'agriculture urbaine? C'est assez facile, en fait. T'sais, on a mis notre toit, on a mis nos bacs sur le toit l'année dernière. L'église est emballée, ils voulaient la même chose, ils sont venus nous voir. C'est de là qu'est né le projet avec le poulailler. Puis là, on a mis le poulailler à tous les matins, tous les soirs. On voit les gens qui passent et qui viennent regarder. Ils sont déjà appropriés quasiment le poulailler. T'sais. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose de peut-être naturel. J'ai pas connaissance des théories sociales à ce sujet-là. C'est plutôt ésotérique, généralement, ce qu'on entend par rapport à l'attrait des plantes puis à l'attrait à ces choses-là. Mais il y a quelque chose peut-être de magique là-dedans. Les gens sont vraiment attirés par ça. Ils sont curieux puis ils trouvent ça intéressant. Il y a de quoi de positif, en fait, là-dedans.
Ouais. Puis quand on y pense, au Québec, il y a deux générations, tout le monde était fermier ou presque, là. C'est pas, on n'est pas des vieux urbains de ce monde. On est quand même une société où encore tout le monde dans sa famille connaît ou presque un fermier ou un fermier dans sa famille. Donc, c'est pas très loin, mais quand même, il y a une déconnexion en arrivant en ville. Je pense que c'est de retrouver cette connexion-là, puis aussi de passer le savoir aux enfants. Que c'est pas normal qu'aujourd'hui un enfant pense que la nourriture pousse sur une tablette d'épicerie. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, c'est important de connaître le processus pour produire sa propre nourriture. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ça.
Oui, dans le fond, tout ce que ça prend, en fait, pour partir des projets comme ça, c'est de la volonté. Tu sais, que ce soit à l'échelle plus politique, mais les projets d'agriculture urbaine à Montréal, dont tout le programme des jardins communautaires, la Ville de Montréal, qui est quand même un beau programme, en fait, qui est très large, qui touche beaucoup de gens. Je pense que ça touche à peu près centaines de milliers d'utilisateurs par année. C'est un programme, en fait, qui est démarré suite à un peu de la guérilla urbaine. C'est des gens qui ont investi des endroits, des bords de chemin de fer, des endroits qui étaient un peu inutilisés, puis on va faire des jardins. Puis c'était par nécessité à l'époque, mais c'en est devenu un loisir à la longue. La ville a permis de laisser certains terrains pour faire ce genre d'initiative-là. Dans le fond, en commençant, il y a un peu un effet boule de neige. Justement, on commence un projet, les gens aiment ça, ils embarquent, puis ça... il peut avoir un effet d'entraînement, puis ça peut être autant, c'est ça, avec une communauté qu'au niveau politique. Si on propose une bonne idée, si on a un politicien qui est à l'écoute, bien, on peut nous laisser accès à un terrain qui est laissé vacant pour toutes sortes de raisons, mais qu'on peut utiliser pour faire un projet de jardinage, ou que ce soit pour le loisir, ou que ce soit même professionnel. Donc, généralement, c'est juste une question de volonté, puis les gens qui veulent... Il y a beaucoup de ces initiatives-là de verdissement qui ont démarré justement à travers le guerrilla gardening. Donc, vraiment, c'est un espace vague qui est laid, qui est à l'abandon. Mais les gens vont le nettoyer de manière un peu spontanée. Ils vont aller le planter de manière un peu commando. Donc, ils vont aller illégalement planter des arbres ou faire un potager, faire une intervention.
C'est aussi de l'art dans certains cas. Hein,
oui, exact. Mm-hmm. Puis c'est un peu l'inverse de faire un graffiti. On rend notre milieu de vie plus beau en espérant que ça va faire ça va générer un courant. Je pense que ça part un peu de là, les projets d'agriculture urbaine.
Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun dans... ben, pas tous les deux?
Oui, on l'a jamais fait. Je m'appelle Patrice Godin, je suis copropriétaire et cofondateur de La Ligne verte Toit vert, qui est une entreprise spécialisée en verdissement urbain. Donc, on veut tout simplement ramener la nature en ville.
Oui, je m'appelle Antoine Trottier, associé à La Ligne verte Toit vert. On installe des toitures végétales, des murs verts, des aménagements, puis on verdit en fait toutes les surfaces bétonnées ou toutes les surfaces possibles. En fait, il n'y a rien à notre épreuve.
Oh, ma ville du futur!
Wow, c'est une bonne question!
Faire découvrir la flore, faire découvrir les insectes, les matières, les textures, les odeurs, le vent, la chaleur.
Des forêts fruitières à Montréal.
Avec des animaux de ferme, avec des poules, avec des lapins.
De trouver une manière de faire des élevations, de petites élevations d'animaux en ville, ça serait vraiment le fun. Il y a plein de choses que je fais.
Quand on a un jardin, on apprécie beaucoup plus la nature. Puis, je sais, mais à cause du jardin, je me rends compte de plus en plus que la nature est plus forte que l'homme. Je trouve que les jeunes sont beaucoup plus civilisés que nous autres à ce point de vue-là. Ils ont eu... à l'école, ils en parlaient. Moi, à l'école, ils n'en parlaient pas. Ça n'existait même pas. L'environnement, ça n'existait pas.
C'était Montréal, la nature se réveille.
On a goûté à ça?
Ah, faut que je mange?
J'ai goûté, madame?
Mm-hmm. Musique. Artificial Nature de North Hive et Nature Kit de Poddington Beer. Son additionnel, Sébastien Dewey, Montréal Sound Map.
C'est très beau ici, hein?
Depuis combien de temps vous travaillez ici?
On ne travaille pas ici.
Vous travaillez dans le sens, s'occuper dans l'espace?
8 ans. Puis, ça coûte quoi?
C'est de l'oignon, ça.
Non, madame.
Qu'est-ce que c'est?
Merci pour leur soutien à...
C'est l'inverse, c'est le roi, c'est l'ail.
Guylaine Lheureux.
C'est l'ail? La
ciboulette à l'ail. Ou la ciboulette chinoise.
Éric Letourneau.
Oui, c'est bon, hein?
Claude Rodrigue. choc.ca.
Ça c'est l'oseille, non?
Et à Pierrette.
C'est ça? C'est de l'oseille?
Ça coûte quoi, ça?
Pour sa lecture de l'année du jardinier de Karel Capek.
Ça goûte le guacamole. De l'ail.
C'est de l'oseille, monsieur, il avait raison.
Ça, on trouve sauvage aussi, hein?
Ben moi, ça passe tout ça, tout ça.
Ah ouais. Ça c'est bon, ça. Mais il faut les manger, ouais, c'est pas en fleurs. C'est que les feuilles qu'on mange, hein?
Ouais, ouais. Là, il n'y a pas trop chaud.
Ouais.
J'aime beaucoup la croix.
C'est quoi, c'est la menthe que vous avez à côté?
Bon, ben, on n'a pas fait le tour, mais quand même.
Pas mal.
C'est le moment de dire merci.
Oh, de rien, ça m'a fait plaisir.
Mais pas à toi.
Bah, à qui?
Merci au Champ des Possibles et à Roger, aux Pousses Urbaines et à Sébastien, à Alternative et à Gaël, au Manche Trottoir et à Richard, au Centre Paul Roulant et à Carlo, à Barbara, Patrick et leurs enfants, à Patrice et Antoine de la Ligne Verte, à Norman du Jardin Communautaire de la rue de Bordeaux, et à toi, François.
Eh, t'oublies personne?
Ah non.
Vous êtes venu à la rame?
Bah non, en avion.
Et qui a payé le billet d'avion?
Ah, merci au Bureau international de la jeunesse à Bruxelles et à l'Office Québec-Colonie-Bruxelles pour la jeunesse à Montréal.